Chères sœurs, chers frères, chers amis, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis ce soir. En préparant ces quelques réflexions pour ce soir que je voulais partager avec vous, j'essayais de comprendre qu'est-ce qui va motiver des personnes de partir de chez elles pour venir ici. Surtout que quand nous sommes arrivés ici, le frère qui conduisait le véhicule dans lequel nous étions suggérait les choses suivantes, c'est qu'on demande au pasteur Go et à son conseil d'administration de faire un parking souterrain sous l'église. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc, on a donné l'idée. En fait, servir Dieu, ça a un prix. Ça a un prix. Et ce prix, ceux qui le payent, ils arrivent à un moment où ils ne se rendent même plus compte du prix qu'ils payent. Parce qu'ils ont choisi de servir Dieu. Peut-être faites-vous partie de ces femmes, de ces hommes qui ont été interpellés par des gens qui n'avaient pas la foi et qui étaient étonnés de voir l'engagement que représente votre service pour Dieu à quelque niveau et à quelque échelle que ce soit. Et je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont décidé de travailler pour Dieu ce soir. Je voudrais parler avec vous. Et je voudrais vous suggérer une autre étape. On commence par travailler pour Dieu, mais je vais terminer en vous parlant d'une dernière étape qui est une excellente étape. Le verset qui introduit la méditation de ce soir se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 1er. Donc je le lis dans la version Louis II. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et puis, en relisant la Bible en français courant, ça a été formulé la même chose, mais différemment, mais qui a le même sens. C'est « puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. Puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous en supplions, ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. » L'être humain s'habitue à tout. L'être humain s'habitue à l'abondance. L'être humain s'habitue au bien-être. L'être humain s'habitue à tout. L'être humain s'habitue à la démocratie. Et parfois, il ne réalise pas que ce qu'il fait peut porter atteinte à l'équilibre de cette démocratie. Et ceux qui ont vécu dans un pays démocratique et qui ont connu un revirement politique et qui sont tombés dans une dictature disent « il y a des choses que nous n'aurions pas dû faire ». Et malheureusement, pour la grâce de Dieu, c'est pareil. Le Seigneur nous demande de ne pas négliger la grâce que nous avons reçue de lui. Quelle responsabilité! Mais cette interpellation, elle est précédée de ce constat où Paul dit « nous » et dans le « nous », il ne dit pas « je ». Le « nous », c'est lui, ses collaborateurs, et très certainement l'Église à laquelle il s'adresse. Nous collaborons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. La première question que je pose, c'est comment travailler pour Dieu? Comment s'y prendre pour travailler pour Dieu? Et finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas si compliqué que ça. Il suffit de la bonne volonté, il suffit de la persévérance, il suffit de la disponibilité, il suffit de l'esprit d'initiative. Je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Mais travailler pour Dieu, c'est pas compliqué. Dès qu'on a de la bonne volonté, qu'on ne va pas s'arrêter aux premières difficultés parce qu'on est persévérant, que chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, il se trouve qu'on est disponible et qu'on n'a pas un agenda complètement surbooké qui fait qu'on peut tout faire sauf servir Dieu, Ensuite, eh bien, on a un esprit d'initiative, tout simplement. On se dit, ben voilà, on voit les choses. C'est pas compliqué de travailler pour Dieu. C'est pas compliqué. Et à mon avis, mais l'immense majorité, voire la totalité de nous qui sommes ici, nous travaillons pour Dieu à des échelons différents, dans des actions différentes, avec un investissement différent, mais nous travaillons pour lui. Et puis, en général, le pasteur, il s'occupe de nous rappeler qu'on doit le faire. C'est son ministère. Et puis, il y a des versets. Alors, au cas où vous les auriez oubliés, je vais vous le citer. C'est Ecclésiaste 9, 10. « Alors, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Ça fait beaucoup de choses, tout. Et puis après, un truc incroyable. « Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » C'est Ecclésiaste 11. Si je ne me suis pas trompé en copiant. Et puis, Ecclésiaste 11, un peu plus loin. « Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Un peu plus loin. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Effectivement, l'Ecclésiaste doit lui donner un objectif premier à cet enseignement, mais nous pouvons nous l'approprier dans le service que nous rendons pour Dieu. C'est pas compliqué. Ben, tout ce qu'il y a à faire, tu le fais. Et tu réfléchis et tu comprends. Et comme tu as de la bonne volonté, que tu as de la persévérance, de la disponibilité, et puis que tu sais prendre des initiatives, eh bien tout d'un coup, il y a des choses qui vont jaillir là et qui vont se faire. Et il va y avoir du résultat. Le résultat, ça va être eh bien des gens qui vont être bénis, heureux par l'action, le travail que l'on fait. Des pécheurs qui vont être sauvés, des gens qui vont être consolés, d'autres qui vont être encouragés, d'autres qui vont être un petit peu repris parce qu'il s'est garé. C'est tout cela, travailler pour Dieu. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est un mot qui est dans toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament, c'est le zèle, le zèle. En fait, il y a plusieurs mots qui sont utilisés dans le texte, tant hébreu que grec, mais qui sont rendus, restitués en français par le mot zèle. Le zèle, c'est-à-dire c'est l'ardeur, c'est l'empressement, c'est la disponibilité. En fait, nous sommes appelés à être zélés, à ne pas faire les choses un petit peu en dilettante, à les faire avec négligence. On connaît cette phrase, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». En fait, nous sommes zélés à l'exemple de Jésus, dont il est rappelé, et il va le dire lui-même, ses disciples vont le dire de lui, lorsqu'il va mettre un petit peu d'ordre dans le temple. « Le zèle de ta maison me dévore. » Et il prenait référence, évidemment, à la prophétie d'Ésaïe. Le zèle. Romains 12:1. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez Christ, le Seigneur. » Ok ? Bon, si ce n'est pas suffisant. Galates 4, 18. « Il est bon d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps. » Donc c'est bon, et en plus, on ne doit pas être des intermittents du zèle. C'est en tout temps. Et puis Paul, aux Éphésiens, il va prendre une image qui est extraordinaire. Il va dire « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » À tout hasard, y a-t-il des gens zélés parmi nous ? Bon, devant le grand silence, mais je dis c'est par humilité en fait. Ouais, mais si vous ne l'êtes pas, il va falloir penser sérieusement à le devenir. Et pas qu'un peu, mais de se dire, mais Seigneur, moi je veux apprendre à me laisser animer et pousser, d'abord par l'action de ton esprit, mais également par les circonstances, afin que tout ce que ma main va trouver à faire, je vais le faire. Et on est étonné lorsqu'on voit le dynamisme de l'Église au niveau mondial, mais lorsqu'on vient au niveau français, même quand on vient dans notre région, on voit tout un tas d'initiatives de gens qui ont des choses à cœur et parfois on n'est pas trop d'accord avec eux parce qu'ils nous étonnent. Et puis Dieu est bon parce qu'il arrive à rattraper des choses qui ont été faites un peu à la va-vite. Ça ne veut pas dire qu'on doit encourager tout le monde à faire tout et n'importe quoi, mais le zèle, c'est essentiel. C'est essentiel. L'autre jour, je participais à une réunion officielle où il y avait toutes sortes d'autorités religieuses, je ne vais pas les nommer. Et à un moment donné, s'est levé un monsieur qui a un poste élevé dans la région de Toulouse et qui disait, voilà, je vais vous dire une chose qui maintenant on commence à dire, mais pour l'instant ce n'était pas trop affirmé, c'est que la religion qui se développe le plus dans le monde, c'est le christianisme. Ce n'est pas l'islam, contrairement à ce que l'on entend dire. C'est vraiment le christianisme. Et je peux vous dire que ce monsieur savait de quoi il parlait. Mais il dit, par contre, on doit reconnaître une chose, c'est que ce dynamisme existe grâce aux églises évangéliques et en particulier aux églises pentecôtistes. Alors je l'avais déjà entendu dire dans nos milieux, mais là ça venait d'un tout autre milieu et de quelqu'un qui était parfaitement informé. Faisait un petit peu, avec cette phrase très laconique, l'éloge de l'engagement que les chrétiens ont pour l'œuvre de Dieu et les conséquences que cela a. Une église qui est pleine de gens qui ne sont pas zélés, c'est une église qui est condamnée à s'étioler et à mourir. Je connais des grands temples qui sont vides parce que les gens zélés sont partis depuis longtemps. Il y a des gens qui essayent encore de prêcher l'Évangile. Dieu a besoin d'hommes et de femmes zélés. Et je suis sûr qu'il va trouver ça parmi nous ce soir. Sauf que l'apôtre Paul, même Jacques, qui nous ont dit tant de bien du zèle, tout d'un coup vont gentiment nous mettre en garde. Et là, il va y avoir quatre zèles qui vont être dénoncés par Paul et par Jacques. Le zèle excessif, le zèle sans intelligence, le zèle impur et le zèle amer. Il y en a un autre, mais on va s'arrêter sur ces quatre zèles. Le zèle excessif, Galates 1,14. Le zèle sans intelligence, Romains 10,2. Le zèle impur, Galates 4,17. Le zèle amer, Jacques 3,14 et 16. Le zèle excessif. En fait, Paul fait tout simplement référence à ce qu'il faisait, alors qu'il était un juif pieux, consacré à la tradition de ses pères. Son zèle excessif l'a amené à faire n'importe quoi, en ayant la parfaite conviction qu'il faisait quelque chose de bien, et qui plus est qu'il le faisait pour Dieu. Lorsque va être mis à mort Étienne, le premier martyr après Jésus, il nous est dit que celui qui était, on va employer des mots d'aujourd'hui, le grand coordinateur de cette affaire, c'était un certain Saul de Tarse. Et il faisait ça alors que les Romains avaient interdit de la lapidation. Ils avaient dit aux Juifs, votre histoire de lapider, les femmes adultères et tout ça et tout le reste, c'est pas possible. Et Paul va rappeler où son zèle excessif pour sa religion l'avait mené. Que Dieu nous garde d'avoir au milieu de nous des gens qui ont un zèle excessif. Plus loin, il va parler, toujours en parlant des Israélites religieux, des Juifs religieux, il va dire ils ont le zèle sans intelligence, Romains. Je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Cherchant à établir leur propre justice. Et ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Le zèle sans intelligence. Pour des raisons que je n'ai pas le temps de vous exprimer, mais je suis tenu d'aller sur Facebook. C'est très enrichissant. Et j'ai, 1000 ou 1500 amis. La plupart me connaissent, moi pas tous. Mais c'est à cause d'Agapé Village. Et là, tout d'un coup, je vois les chrétiens, et j'ai surtout des postes qui sont mis, c'est vraiment des bons chrétiens, quoi. C'est des versets d'encouragement. Hein. Celui qui n'a pas lu sa Bible, s'il a bien des bons amis sur Facebook, il va avoir tout ce qu'il faut, là. Il aura lu au moins un chapitre dans la journée. C'est encourageant. Et l'autre jour, je vois un truc, mais qui me scandalise, mais vous ne pouvez pas savoir. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des chrétiens qui aiment Dieu, qui aime les âmes, fasse ce genre de truc. L'évangélisation de la rue, moi je trouve que c'est sympa, c'est bien, de se mettre là avec la guitare, ou sans la guitare, avec le micro ou sans le micro, les gens passent, si on les énerve, ben, ils s'en vont, et puis c'est tout. Mais là, ce que j'ai vu, ça m'a concerné. Je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que vous êtes passé à côté de cela. Mais j'ai vu un gars à Paris, en plus je le connais, je l'ai eu comme enfant dans les colos, le brave garçon, donc je lui ai dit un petit mot quand même. Il rentre dans un métro, vous savez le métro, vous savez ce que c'est ? La porte s'ouvre, les gens rentrent, la porte se ferme, et là, il a son micro, et il évangélise les gens dans le micro. Et il est très fier, dans le métro, il est très fier de cela. Et les gens me disent, mais qu'est-ce qu'il y a de mal ? Mais c'est scandaleux, mes amis. Le respect des personnes, Jésus ne serait jamais permis ce genre de choses. Il n'a pas dit à Zachée, je viens chez toi, il faut qu'on parle. Il a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Et voyez-vous, c'est des petits détails, mais j'aurais pu en passer tant et plus. Un jour, je suis invité à un mariage, et on était plusieurs pasteurs. Et donc, le mariage, on m'a dit, bah, écoutez, voilà, pour X raisons, les mariés font la cérémonie dans un endroit qui était dans un château où il y avait des salles à manger, etc. Et moi, je me suis dit, c'est très bien, au moins les gens sont là. Sauf que les choses se passent d'une drôle de manière. On a l'apéritif, et moi je dis aux gens, mais c'est quand la partie spirituelle ? Elle me dit, non, tu vas voir, c'est au moment du repas. Je dis, au moment du repas ? Donc, on arrive au moment du repas, tout le monde s'assied, donc les gens, ils sont là. Et là, contre toute attente, il y a des gens qui arrivent avec une sono, et tout d'un coup, commence un temps spirituel. Et là, moi, j'étais là, je regarde les gens, et je me suis dit, ça va partir en vrille, ce truc-là. Parce que là, on a ce qu'on appelle un public captif. Les gens, ils ne vont pas accepter cela. Et un monsieur s'est levé, j'ai dit, c'est bon, là, on va vers le scandale. Et puis, bon, il est allé fumer sa cigarette dehors. À la fin, ça a été très compliqué pour les mariés, je peux vous le dire, puisque c'est des amis de mes enfants. Donc, j'ai vu le pasteur, je lui ai dit, mais c'est pas comme ça que l'on fait. Que l'on n'ait pas honte de l'Évangile, mais moi, le premier. Mais on est d'abord dans une société où on doit respecter ce qui se passe dans cette société, mais on doit avoir le respect des personnes. L'Évangile, ça ne s'impose à personne. Jésus ne s'est jamais permis de le faire. Mais j'ai dit, c'est très possible tout d'un coup de dire, ben voilà, mes chers amis, il y aura ici un temps religieux ou cérémonie religieuse ou spirituelle, et donc les gens qui ne veulent pas y aller vont se sentir respectés et peut-être même qu'ils viendront. Mais ils ne se sentiront pas pris en otage. Je ne vais pas aller plus loin. Mais je tiens à vous dire qu'en tant que pasteur, j'ai un peu plus de 40 ans de ministère, je suis très préoccupé par le zèle sans intelligence. Parce que les sentiments, les idées sont bonnes, le discours pour le justifier sont bons, les résultats sont désastreux. Et puis tout d'un coup, on brandit une âme qui a été sauvée comme un faire-valoir. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui pourrait te dire, bah, écoute, je vais te filer une liste de gens qui, eux, sont repartis scandalisés et choqués. Non, on n'a pas à avoir honte de l'Évangile. Mais l'Évangile de paix, c'est une bonne nouvelle. Et il y a le respect que l'on doit avoir qui fait tout simplement appel, eh bien, au bon sens et à l'intelligence. Je ne m'arrêterai pas sur le zèle impur. Le zèle impur, c'était bien tout simplement des gens, les Galates, qui avaient été pris en otage par d'autres personnes. Je vous laisse lire, hein, c'est Galates chapitre 4 et verset 17. Et le zèle amer, ben le zèle amer, il nous dit, là, car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, et tout d'un coup il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Je trouve que j'ai parlé déjà, presque trop longtemps, du zèle que l'on ne doit pas avoir. Sauf que je me devais de vous en parler. Je termine sur ce point en rappelant l'épisode de Jéhu, monsieur Jéhu. Son nom, c'est pas rien. Son nom, Jéhu, ça veut dire, c'est une espèce d'association, ça veut dire c'est l'Éternel. Voilà ce que veut dire Jéhu. Deux Rois, chapitre 10. Jéhu dit à Jonadab, viens avec moi, tu verras mon zèle pour l'Éternel. Et il l'amenait ainsi dans son char. Et l'Éternel, plus tard, va dire à Jéhu, tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux. Donc, c'est un bon gars, bien zélé. Toutefois, c'est la suite, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur avec l'Éternel. Ça ne traîne pas, le verset qui suit, 32. C'est vers cette même époque que l'Éternel commença à réduire le territoire d'Israël. À cause du zèle. Je ne sais plus s'il est excessif, sans intelligence, impur, amer. Peut-être qu'il était pire que ça, le zèle de Jéhu. Voyez-vous, travailler pour Dieu avec zèle, ça doit nous rendre vigilants par rapport à ce que Dieu attend de nous, et ça ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Mais en fait, le projet de Dieu, il est plus loin que cela. Ce n'est pas suffisant de travailler pour Dieu. Il faut apprendre à travailler avec Dieu. Et là, il y a une certaine différence. Qu'est-ce que j'entends par travailler avec Dieu ? Jésus va dire, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, c'est Jean 15, et je continue, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. La bonne volonté, être le zèle, la disponibilité, l'enthousiasme, c'est très bien, il le faut. Mais si ce n'est pas accompagné d'autre chose, eh bien on va remplir tout un ensemble d'activités pour, au bout du compte, dire, ou s'entendre dire plutôt, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Que s'est-il passé là ? Ils ont continué de travailler pour Dieu. À la fin, ils continuaient de travailler pour Dieu selon ce qu'ils pensaient, mais ils étaient passés sur un autre registre. Qu'est-ce que c'est travailler avec Dieu ? Travailler avec Dieu, ça demande de l'écoute, ça demande de l'obéissance et ça demande la communion avec Dieu. L'écoute, l'obéissance et la communion. Vous vous rappelez le jeune Samuel, le conseil qui lui a été donné lorsqu'on allait l'appeler, lorsqu'il allait entendre « Samuel, Samuel ». Élie lui a dit « Va, couche-toi, et si l'on appelle, tu diras « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel a seul se coucher à sa place. Et lorsque l'Éternel vint et se présenta, il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » C'est ça, travailler avec Dieu. Et travailler pour Dieu, parfois, ça peut devenir « Écoute, Seigneur, ton serviteur parle. » « Je t'explique, Seigneur, ce qu'il faut faire. Je suis sur le terrain, moi. Donc, voilà, j'ai la réalité en face. » Et Dieu dit « Ah oui, super. Et moi, je ne la vois pas, cette réalité. » Pour bien imaginer cela, je voudrais vous rappeler le témoignage de Philippe. C'est un témoignage qui est marquant, parce que cet homme va se retrouver avec des responsabilités. Rien ne nous précise qu'il est postulé pour avoir le poste qu'il a eu. Il nous a dit qu'il a été désigné par l'Église de Jérusalem. Il fallait accomplir une tâche qui était essentiellement matérielle mais fraternelle, donc un service aux tables pour faire, on va dire, un travail de bienfaisance. Et il va se retrouver avec tout un ensemble d'autres frères à accomplir cette mission. Manifestement, c'est quelque chose qui lui a peut-être bien été imposé par les circonstances et par le vote du peuple. Et voilà, trouver ce brave frère, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, nous dit le texte, qui va avoir une tâche matérielle dans l'Église. Et de dire cela, ce n'est pas réduire son service. Sauf que tout d'un coup, persécution. L'Église est obligé de s'échapper de Jérusalem. Seuls les apôtres restent à Jérusalem. Et tout le monde se sauve, à droite, à gauche. Et il nous est dit qu'en se sauvant, eux, ils rendaient témoignage de Jésus-Christ. Et Philippe, tout d'un coup, il va se retrouver à faire, peut-être ce qu'il a vu faire parmi les autres, peut-être ce que les apôtres lui avaient dit avant de partir, lui dit surtout, tu t'en vas, mais pas la tête basse, tu continues de proclamer. Enfin, je ne sais pas, il va devenir un évangéliste. Et quel évangéliste ? Cette histoire est racontée au livre des Actes, chapitre 6. Là, donc, il y a plein de gens qui vont se convertir. Et tout d'un coup, il se dit, oh là là, c'est... Et donc, il envoie un SMS, ou je ne sais pas comment, aux apôtres qui étaient à Jérusalem pour qu'ils viennent à la rescousse. Et tout le monde est béni et tout le monde est réjoui. C'est un véritable réveil qui se passe à Samarie. Philippe n'avait rien prémédité, rien de tout cela. C'est les circonstances qui ont fait que... Sauf qu'à un moment donné, nous lisons, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Et pour couronner le tout, ça se termine « Celui qui est désert. » Et attends, Seigneur, tu vois le boulot qu'il y a là ? Il y a plein de réunions à faire, il y a des visites, il y a prier pour les malades, tout ça. Et là, tout d'un coup, tu m'envoies quelqu'un, un envoyé qui me dit « Non, non, tu t'en vas. » En plus de Samarie, alors il ne savait pas où il fallait aller, c'est le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, 60 kilomètres à peu près. Alors je dois aller où ? À la sortie de Jérusalem ou à l'entrée de Gaza ? Je vais où ? C'est incroyable cette histoire. Et en plus, je suis prévenu à l'avance, il n'y a personne. Il est désert. Là, Philippe avait passé le cran supplémentaire. Il avait arrêté de faire pour, tout d'un coup. Il faisait avec déjà. Mais là, il a passé vraiment l'étape. Il a dit, voilà, Seigneur, je vais travailler avec toi. Et donc, il arrive là, sur ce chemin désert. Donc, il n'y a pas grand-chose. Rien à voir, rien à entendre. Si, un cortège officiel qui arrive. C'est ce que nous dit le livre des Actes des Apôtres, hein. Un monsieur, il n'est que ministre des Finances. Vous savez tous très bien ce que ministre des Finances, ça peut devenir. Donc, vous le savez ça. Donc, il est ministre des Finances. Il est dans la Rolls de l'époque. Il est dans un char. Je peux vous dire que Philippe, tout aussi bien, n'avait même pas un petit anon pour le porter. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire là ? En plus, il y a du monde, puisque le monsieur, il a voiture avec chauffeur, puisqu'il peut lire pendant que le char avance. Et donc, Philippe se dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté. Et là, tout d'un coup, l'esprit d'initiative reprend le dessus, il écoute, et il entend l'autre qui lit à haute voix le prophète Ésaïe. Apparemment, il a du mal, donc il doit lire fort pour couvrir le bruit du char et des chevaux. Hein. Il doit lire fort, le gars. Et d'où la phrase incroyable de Philippe, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Bon, il ne faut pas être susceptible, hein. Il n'était pas susceptible, notre ministre, hein. Surtout, il a dit, mais ça, c'est un garçon. Tu sais à qui tu parles, mon petit, là? Qu'est-ce que tu fais, là? Tu fais du stop? Tu fais quoi, là? Eh ben non. Et là, en peu de temps, qu'est-ce qui va se passer? C'est incroyable. L'écoute de Dieu, l'obéissance à Dieu, la communion avec Dieu sont un passage obligé pour travailler avec Dieu. Je suis sûr que tous, vous avez déjà travaillé et vous travaillez encore pour Dieu. Moi, je suis venu pour vous dire maintenant, il faut passer le braquet supérieur, de dire, Seigneur, je veux travailler avec toi. Je veux travailler avec. C'est plus du tout pareil. Si mon peuple m'écoutait, en un instant, « je confondrai ses ennemis. » Psaume 81. « Si mon peuple m'écoutait. » Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'écoutent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est Jésus qui a dit ça. 8 fois dans les évangiles. 8 fois. Et pour enfoncer le clou, livre de l'Apocalypse. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. 7 fois, c'est quasiment la seule phrase qui est répétée 7 fois à 7 églises différentes. Chacune, elle a entendu des choses particulières, mais là, c'était le point essentiel. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui, singulier, qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit au pluriel. Église, ça fait appel à un groupe. Ça veut dire quoi ? C'est que chaque fois que la parole est proclamée dans ce lieu ou dans un autre, à l'église ou aux églises, Dieu dit « Où c'est que tu es né ? Toi. » Je t'avais dit « Toi, si tu as des oreilles, entends ce que l'Esprit dit aux églises. » Dieu cherche un peuple qui soit un écoutant de sa parole. Dieu cherche un peuple qui soit un écoutant de sa parole. Il ne faut pas regretter ce qu'on a fait pour Dieu, même si on sent que parfois on l'a fait sans réflexion, sans conviction, un peu, voilà, comme ça, à la va-vite. Ce qui est fait est fait. Si ça demande de s'excuser auprès de Dieu, et donc de se repentir, ben, il faut passer par là. Mais je voudrais encourager chacun d'entre nous à dire ce soir, Seigneur, je voudrais pas simplement travailler pour toi, mais travailler avec toi. Est-ce que vous percevez bien cette différence, travailler pour quelqu'un et travailler avec quelqu'un ? Je voudrais vous donner un témoignage. L'histoire d'une brave chrétienne d'une église qui avait l'habitude de prier pour les uns et pour les autres. Et cette dame avait une liste de prières. Et donc, il y avait les noms. Et elle faisait cela, c'était devenu une routine pour elle. Et donc, elle priait, et elle le dira après, avec presque à la fin, il n'y avait plus du tout de spontanéité. Seigneur, tu bénis monsieur et madame un tel. Voilà, tu les soutiens, etc. Tu bénis un tel, tu bénis un tel. Et elle avait une liste assez longue. Et ça a duré une bonne partie de sa vie de chrétienne. Et puis un jour, quelqu'un vient rajouter quelque chose à sa liste de prières. Tout simplement parce qu'elle est dans une réunion de prière. Et là, elle entend une grand-mère qui fait un grand sanglot, qui dit, ben voilà, voilà, j'ai mes enfants qui ne sont pas convertis. Mon fils est opposé aux choses de Dieu. Voilà, il vient d'avoir un bébé. Le bébé, il est handicapé. Et cette femme est touchée de cela. Donc elle va voir cette brave grand-mère, lui dit, écoutez, parlez-moi de ce que c'est. Elle le dit, voilà ce qui s'est passé. Mon petit-fils, il est aveugle. Et bon, il a été vu par le plus grand médecin de la région. Et bon, c'est fini, il restera aveugle toute sa vie. Et on est tous découragés. Et donc, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait arriver chez elle? Ben, elle rajoute sur la liste. Et pendant plusieurs semaines, elle va prier pour cette famille dont elle ne connaît que la grand-mère. Et elle a rencontré, mais très rapidement, le fils. Un soir, Dieu lui parle. Elle était dans son lit. Tu t'habilles. Tu vas vite chez ces gens. Cette femme qui dit, c'est quoi? C'est qui parle? C'est moi qui me parle? C'est qui parle? Et puis, elle se dit, peut-être que c'est le Seigneur qui me parle. Cette femme était protestante, historique. Elle faisait partie de l'église protestante, de l'église réformée de France, donc... Elle se dit, mais Seigneur, c'est très étrange, mais elle sentait l'esprit qui la pressait. Et puis elle a des arguments, elle dit, mais je ne sais pas très bien où ils habitent, puis je ne se connais pas. Et tout d'un coup, elle a écouté la voix de l'esprit. Elle va prendre le tramway et elle va traverser une partie de cette ville. Elle va arriver chez ces gens. Elle va frapper et là, le temps que la porte s'ouvre, cette dame qui était... l'ex-épouse d'un grand banquier de la ville, une femme de distinction, qui se dit, mais qu'est-ce que je vais dire là? Ça n'a pas de sens, ma présence. Et donc, la porte s'ouvre, et il y a une jeune femme qui est habillée avec un manteau, qui ouvre la porte, et elle lui dit, voilà, vous êtes madame telle? Elle dit, oui, oui. Et elle dit, écoutez, c'est... Et elle dit, c'est Dieu qui m'envoie. Comme entrée en matière, c'est Dieu qui m'envoie. Et là, la jeune femme s'effondre, se met à pleurer. Elle lui dit, venez. Elle l'amène juste à la table de la salle à manger qui était là. Elle lui dit, lisez ce qui est écrit là. Ce qui était écrit sur la lettre, mon chéri, c'est trop dur. J'ai décidé de mettre un terme à la vie de notre fils et à la mienne. Pardon pour ce que je fais, mais je ne peux pas me résoudre à l'idée d'avoir un enfant aveugle. Tu referas ta vie, enfin, tout un baratin. Donc tout d'un coup, cette brave femme, cette brave chrétienne de la liste, celle qui travaillait pour Dieu depuis tant de temps, elle a compris que là, elle venait de passer une étape supplémentaire. Elle a compris que c'était vraiment Dieu qui l'envoyait. Et donc, elle va rester et elle va attendre avec impatience que le mari rentre du travail. Il faisait nuit. C'était l'entrée de l'hiver. Et le mari, il n'arrivait jamais. Donc du coup, elle lui dit, écoutez, on va prier, et puis après, je m'en vais. Et quand votre mari va arriver, vous allez lui dire ce qui s'est passé. Et puis elle lui dit, mais vous savez, Dieu est grand. Et donc imaginez cette femme, culture protestante, vous savez, Dieu peut faire des choses étonnantes, il peut guérir. Et tout d'un coup, la jeune femme tape sur la table comme ça, dit, je le crois. Elle a, donc là, elle fait une savante marche arrière. Elle dit, écoutez, donc ce qui serait bien, c'est que vous priez avec votre mari. Bon, c'est un peu compliqué, le mari était athée, bon, voilà. Et donc elle est partie. Et le soir, monsieur, peut-être une heure après, monsieur rentre, et il entend ce qui venait de se passer. Cet homme incroyant est touché, il est bouleversé. Sa femme prie, elle était catholique, donc elle a fait une prière. Lui, il a improvisé un truc. Et puis il a dit, voilà, Dieu, si tu existes, tu te révèles à moi, en guérissant mon fils. Et puis, en général, quand on prie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Et là, il s'est passé rien. Vous riez, mais vous êtes habitué, je vois. Donc, ils se sont couchés. Ils se sont couchés. Et ceux qui ont un bébé à la maison le savent, le réveil matin, c'est un superflu, ça sert à rien. Et donc, évidemment, voilà, c'est quand qu'on mange. Et donc, c'est lui qui va prendre son bébé dans les bras. Et là, il va découvrir quelque chose qui va le tétaniser, le sidérer. Vous avez déjà vu un regard d'aveugle? C'est pas très facile à soutenir. Sauf que là, c'était pire que tout. On voyait pas l'iris, on voyait pas la pupille, c'était que du blanc, c'était très moche. Et là, tout d'un coup, il voit deux petits yeux qui le regardent. C'est comme si une mitraillette le transperçait. Et cet homme est là, il est sidéré. Il ne sait pas quoi faire. Donc il se rappelle ce qu'il avait vu faire par les différents médecins. Il met l'enfant à la lumière, qui évidemment réagit. Cette nuit-là, le Christ ressuscité était rentré dans cette maison. Chers frères et sœurs, excusez-moi. Ce que je suis en train de vous dire, ça s'est passé à Toulouse. La dame en question, elle habitait quartier du Pont des Demoiselles. Le bébé qui devait finir dans le canal, côté des ponts jumeaux, c'est moi. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? Ça a marqué toute notre famille. Dans vos églises, il y a quelques têtes grisonnantes qui peuvent vous le raconter, tout ça. Évidemment, ça a été quelque chose de béni pour l'église qui décède, rue Tempernière. Une femme qui, tout d'un coup, a su entendre Dieu. J'imagine que ce soir, Dieu est en train de mettre un tableau et de dire qui c'est qui va s'inscrire là. Tous ces enfants qui ont fait déjà pas mal de choses pour lui, qui disent « Seigneur, je suis prêt maintenant à travailler avec toi. Parce que je suis passé à côté de choses, je ne les ai pas vues, je ne sais même pas que je suis passé. Un jour, tu me le diras. Mais Seigneur, je veux travailler avec toi. » Je termine en vous relisant le témoignage de Élie. C'est raconté dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. Élie, quel homme extraordinaire. Élie était de la même nature que nous, nous dit le Nouveau Testament. Sauf que tout d'un coup, un grand coup de découragement. Ça arrive, ça. Même au grand prophète. Mais Dieu va le récupérer, ce garçon. Élie entra dans la caverne, il passa la nuit, un roi 19:9. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Et Élie répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne. » devant l'Éternel. Et l'Éternel passa. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Écoute bien. « Va, reprends ton chemin par le désert. » Je vous laisse le soin de relire tout ce récit de 1 Roi, chapitre 19. Et je termine en m'adressant aux gens qui sont comme Élie qui dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Mais là, je suis en train de fléchir le genou. Laisse le Seigneur te parler. Et ce que le Seigneur va te dire, il va te dire ce qu'il avait dit à Élie précédemment. Le chemin est trop long pour toi. Là, il lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Mais ça a été un tournant magistral dans le ministère d'Élie, qui va oindre plusieurs rois, deux rois, qui va oindre un prophète à sa place. Cet homme zélé, tout d'un coup, va se retrouver sur la rampe de lancement pour travailler avec Dieu. Et je voulais terminer par ces paroles, parce que j'ai le sentiment aussi que peut-être ce soir, il y a des gens qui sont des zélés fatigués. Ma chère sœur, mon cher frère, Dieu a encore besoin de toi. Écoute-le. Et il n'a pas fini de t'étonner. Je vous remercie de votre attention.